Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à notre invité ici avec nous et nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique, sur le continent africain. De nombreux enfants dans le monde ont besoin d'une éducation spéciale en raison d'un handicap ou de troubles d'apprentissage. S'ils sont généralement pris en charge par l'éducation publique en Occident, ils sont souvent encadrés par des ONG ou institutions privées en Afrique subsaharienne. Le Sénégal a une dizaine d'écoles spécialisées, le Cameroun une vingtaine, dont la plupart appartiennent à des missionnaires, tandis que l'Afrique du Sud en compte plus de 400. Aux États-Unis, où il y a environ 2000 écoles publiques d'éducation spéciale, la loi sur l'éducation des personnes avec handicap rend obligatoire une éducation publique gratuite et appropriée aux élèves éligibles âgés de 3 à 21 ans. À noter que la majorité des enfants ayant des difficultés d'apprentissage sont intégrés dans des écoles ordinaires en recevant des soins spéciaux. Alors, les questions pour nos auditeurs. Les enfants handicapés ou ayant des troubles d'apprentissage sont-ils bien pris en charge dans votre pays? Les parents sont-ils soutenus et en mesure d'évaluer les besoins particuliers de ces enfants? Nous allons aborder ce thème avec Dr Stéphanie Mbella, professeure spécialisée conseillère en orientation dans un collège communautaire du Maryland, ici aux États-Unis. Docteur, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci pour cette invitation, Nathalie.
Alors, Stéphanie Mbella, vous avez été donc professeur éducateur pendant plusieurs années aux États-Unis, où selon le centre de recherche Pew, il y a près de 7 millions d'étudiants handicapés. Pourriez-vous nous dire comment fonctionne l'éducation spéciale aux États-Unis? Quelles sont ses particularités? Et à quel type de profil d'élèves s'adresse-t-elle en particulier?
Merci Nathalie. Aux États-Unis, il y a une loi qui a commencé en 1975 et qui a évolué au cours des décennies. Cette loi, c'est localement, le sigle c'est IDEA et elle a deux parties. Une partie qui est B et une partie qui est C. La partie C s'occupe des enfants qui ont des handicaps qui ont été déterminés à la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Et la partie B s'occupe des élèves de 3 ans à 21 ans. Donc, les profils varient. La loi aussi détermine des catégories. Il y a 13 catégories de handicap qui sont reconnues par la loi. Je vais juste citer quelques-uns. Il y a par exemple les troubles d'apprentissage qui sont assez communs. Et les enfants ont des problèmes de langage écrit, des mathématiques ou bien d'écriture. Il y a aussi un autre qui est assez récurrent, c'est le spectre de l'autisme. Il y a plusieurs enfants qui ont ce handicap. Nous avons entre autres des perturbations émotionnelles où les enfants ont des problèmes de dépression, d'anxiété. Et un autre qui apparaît souvent, c'est la surdicécité. Nous avons entre autres des enfants qui ont des problèmes de traumatisme crânien et je vais aussi citer ceux qui ont des, disons, ce qu'on appelle beaucoup de handicaps. Donc, quand ces enfants ont une combinaison de nombreux handicaps, ils sont aussi inclus dans la provision de ces services. Et entre nous, dans le monde francophone, on parle souvent des simples d'esprit. Mais ici, la loi les appelle les enfants qui souffrent de déficience intellectuelle. Et ces derniers aussi sont pris en charge dans la loi. Donc, c'est juste quelques catégories. Et pour le profil, ces enfants sont, la loi exige que ce soit les écoles qui, vraiment, au travers des tests administrés, puissent vraiment référer ces enfants, on les repère, et mettre sur pied des stratégies pour s'assurer que ces enfants puissent fleurir dans le milieu académique. C'est la loi et c'est une loi fédérale. Elle doit être appliquée et si elle n'est pas appliquée chaque année, il peut y avoir des conséquences parce qu'il y a des mécanismes qui sont...
On va justement parler des mécanismes de contrôle. Donc, vous avez cité certains besoins spéciaux, notamment aussi les troubles de l'attention avec hyperactivité. Et le syndrome de Down ou trisomie 21 aussi. Hein.
Oui.
Alors l'école publique, hein, comme vous venez de le dire, permet l'intégration de l'élève en difficulté dans une classe ordinaire. Mmh. Alors quels sont les atouts justement de cette formule d'éducation inclusive? Et dans quelle mesure serait-elle préférable à une école spécialisée, finalement du moins complémentaire?
Donc, nous vivons dans une société où toutes les personnes sont acceptées. Donc, avoir ces enfants qui souffrent de handicap dans un milieu académique normal, c'est juste un reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et avoir ces enfants aussi dans ce cadre-là élicite un peu de tolérance envers les autres enfants qui réalisent qu'il y en a parmi eux qui apprennent différemment. C'est vraiment une mesure de tolérance et ça accroît aussi. Il y a un côté où les élèves apprennent à vraiment, comment dirais-je, apprécier ce qu'ils ont. Parce que quand on voit comment les enfants qui ont les troubles d'apprentissage, par exemple, toutes les mesures qu'ils doivent suivre pour pouvoir réussir, mm-hmm. on se dit, mais moi je dispose de toutes ces facultés, pourquoi ne vais-je pas en prendre vraiment, comment dirais-je, avantage? Donc c'est bien
pour les élèves eux-mêmes finalement, ouais. ce jeune garçon, cette jeune fille finalement, il va apporter quelque chose à l'élève qui lui n'a pas ce type de problème. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on peut le faire très très tôt, hein, c'est dès l'école primaire, on peut avoir un ou deux élèves comme ça dans son école et il y a une relation qui se tisse finalement entre les élèves donc réguliers on va dire et ces jeunes élèves là. Stéphanie Mbella, les mécanismes de contrôle du gouvernement dont vous vouliez parler tout à l'heure sur les programmes d'éducation spécialisés, là aussi il y a des lois, il y a des plaintes, il y a des pénalités?
Oui, il y a des lois. Toute école qui reçoit des fonds fédéraux doit respecter cette loi. Et en termes de pénalité, chaque État, bon, il faut juste donner un petit contexte. Le fédéralisme des États-Unis permet que les États puissent aussi avoir une certaine mainmise dans la gestion des districts scolaires qui sont dans leur État. Donc, il y a des facteurs qui sont... il y a des déterminants qui sont vraiment listés tout autour de l'année pour mesurer le progrès de ces enfants qui souffrent de handicap. Et quand les districts scolaires n'arrivent pas à atteindre ces objectifs qui ont été déterminés au début de l'année académique, il y a certaines pénalités qui s'en suivent. Je donne juste trois catégories. Numéro un, ces districts, ils peuvent être mis sous assistance. Donc, le gouvernement fédéral va intervenir pour leur permettre de mettre sur place l'application de la loi. Et parfois, ça peut être un an ou deux ans. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le côté financier est vraiment une grosse incitation parce que si un district scolaire n'arrive pas à être conforme à la loi, ils peuvent voir son budget par enfant, être réduit, et ça a d'autres conséquences, ce qui se répercute sur tout le système scolaire.
Des exigences de résultats, on connaît ça dans le système public aux États-Unis, c'est pour ça que c'est un très bon système du reste. Hein. Les écoles publiques sont très bonnes aux États-Unis. Et ce qui est encore plus difficile dans ce que vous dites, c'est que vous avez parlé donc de l'État fédéral, les États qui sont plus ou moins indépendants, effectivement. Donc on a l'État aussi qui contrôle certaines choses, et puis on a aussi le comté. Et en fait, on a vraiment beaucoup de mécanismes. On imagine de contrôle, comme on le sait pour toutes ces questions-là. Alors, selon le programme des Nations Unies pour le développement, 10% de la population mondiale vit avec des besoins spéciaux et 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement. Et la Banque mondiale estime que sur les 58 millions d'enfants qui ne fréquentent pas l'école primaire, un tiers ont un handicap. Alors, le cas du Cameroun et éventuellement d'autres pays africains, vous pourriez nous faire un petit état des lieux, quels sont les besoins?
Le Cameroun est aussi comme de nombreux États africains où on essaye, autant que faire se peut, d'inclure ses enfants dans le milieu de l'enseignement général. Pour le moment, les services qui sont disponibles pour ces enfants viennent plus du côté privé, c'est-à-dire des écoles qui sont gérées par des missionnaires ou aussi des organisations non gouvernementales. Mais le gouvernement a mis sur pied des lois et essaie d'avoir cette pratique vraiment répandue dans tout le pays, et il s'attelle aussi à ce que toutes les écoles puissent encadrer ces enfants et qu'ils puissent aller à la réussite. Est-ce qu'il y a du chemin à faire? Oui, comme dans tous les pays africains, le Cameroun n'est pas unique dans ce sens, mais la volonté est là et il suffit que tout le monde puisse y mettre du sien afin que ces enfants puissent se sentir à l'aise dans le milieu académique quand ils le sont ici aux États-Unis, par exemple.
Mmh. Oui, effectivement, hein, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en route, hein, qui démarrent, qui se mettent en place, hein, dans plusieurs pays africains. On a notamment la réflexion d'un de nos auditeurs, c'est Las Gassé, qu'il est au Sénégal et justement il parle lui également de son pays. Il dit l'État a mis en place des établissements spécialisés dans l'enseignement des handicapés physiques. Cependant, dit-il, après le baccalauréat, ces handicapés ont des problèmes pour poursuivre leurs études supérieures. Hein. Et il dit par ailleurs, pour ceux qui ont obtenu leur diplôme de l'enseignement supérieur, l'État en recrute un nombre réduit et les entreprises intègrent peu les handicapés au cœur de leur système. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, pardon, parce que effectivement, après, il s'agit d'avoir un emploi, d'entrer dans la vie active. Et là aussi, c'est encore plus difficile pour s'intégrer. On sait quand même qu'aux États-Unis, il y a énormément de structures, de mise en place, de règles, hein, qui permettent de recevoir donc ces personnes. On pourrait écouter la réflexion de Sena Dodzi, qui est au Togo. C'est un de nos auditeurs.
Bonsoir la Voix Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique. Au Togo aussi, moi-même, j'ai été témoin de ces faits. Il y a les ONG, les missionnaires catholiques qui ont pris en charge catégoriquement les problèmes de ces enfants. La famille qui ne peuvent pas donner une éducation à leurs enfants, des enfants handicapés, des orphelins, des enfants de rue. Donc l'Église catholique a pris en charge catégoriquement ces enfants pour leur donner une éducation meilleure, un avenir meilleur. Même le gouvernement togolais aussi fait de son mieux. Oui, le président Faure Gnassingbé également a rendu l'éducation primaire gratuite pour que tout enfant, chaque enfant, puisse avoir une éducation. Mais actuellement, je pense que c'est les finances qui manquent pour que le travail aille plus loin qu'ils ont commencé. Parce que moi-même, j'ai été témoin. Sans la sœur Pilar Balitalienne, la missionnaire catholique, je ne serais même pas écrit ni parlé le français ou bien été à l'école. Ces missionnaires m'ont pris en charge dès la classe de CE2 jusqu'à j'ai terminé mes études. Donc nous étions beaucoup dans la main de ces missionnaires catholiques. Donc ils nous offraient toute l'éducation, les fournitures, payer nos scolarités. Même dans mon quartier, j'étais plus propre que les enfants des riches. Donc je pense que ces missionnaires, ces ONG font beaucoup pour les orphelins, pour les familles démunies, pour les enfants de rue, beaucoup.
Et voilà, c'était Sena Dodzi Kwadjo, il est au Togo, c'est un de nos auditeurs. Stéphanie Mbella, on revient un petit peu aux États-Unis parce que là, bon, c'est vraiment différent de l'Afrique, hein. La prise en charge privée-publique aux États-Unis, le privé est-il toujours synonyme de qualité?
Non, pas nécessairement, comme tout ailleurs. Nous sommes des êtres humains et il y a des défaillances qui s'observent. Mais en ce qui concerne ces enfants-là, qu'ils soient dans un institut privé ou dans un institut public, la loi est la loi. Elle s'applique, même ces instituts privés doivent respecter ces déterminants. Et chaque année, si ces instituts ne le respectent pas, ils ont une conversation avec les autorités fédérales.
Mmh. On va faire une toute petite pause musicale, hein, et puis après on va écouter la réflexion de Alphonse Mbouaki, il est en République démocratique du Congo.
À votre avis sur VOA Afrique.
Alphonse Mbouaki, dans à votre avis, en RD Congo, il y a une politique d'inclusion. En 2008, dans le rapport national de développement de l'éducation, l'éducation inclusive prend en compte les besoins individuels en matière d'enseignement, apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité, enfants des riz, filles, groupes d'enfants appartenant à des minorités ethniques, enfants issus des familles démunies financièrement, enfants issus des familles nomades, des familles réfugiées ou déplacées, enfants vivant avec le VIH, SIDA, les apprenants exceptionnels et enfants handicapés. L'enseignement spécialisé ou intégré a été initié par la loi du 22 septembre 1986. Des ONG nationales et des confessions religieuses et philanthropiques ont pris en charge des établissements. Cependant, l'école primaire congolaise reste inaccessible à la majorité des handicapés. Les actions menées pour l'instauration d'écoles exclusives sont surtout via Handicap International. Le pays, donc la RDC, n'a toujours pas signé, ratifié la Convention contre la discrimination dans les domaines de l'enseignement. La loi énonce la vision de l'État pour la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Les programmes en faveur de l'éducation inclusive, spéciale et des enfants vulnérables s'adressent aux orphelins, enfants confiés ou enfants en rupture familiale, aux enfants vivant avec handicap et aux groupes sociaux particuliers, camps des peuples autochtones ou ceux qui sont dans les campements des bords des rivières. Il est affirmé que les problèmes de formation, de professionnalisation, des qualifications, des compétences du personnel enseignant se posent à tous les niveaux du système éducatif et plus particulièrement pour le secteur de l'enseignement spécial et de l'éducation inclusive. Il est promis que des centres de ressources pour les enseignants vont aussi être créés pour former des enseignants qualifiés pour le nouveau système éducatif. L'un d'eux a été inauguré à Kinshasa grâce à l'appui financier du gouvernement des États-Unis. Suivi des données, les pays, la RDC Congo ne possède pas des rapports de suivi sur l'éducation. N'ayant pas encore de politique sur l'éducation inclusive, l'État ne semble pas avoir identifié d'indicateurs pour suivre l'atteinte des objectifs en éducation inclusive. C'était donc Alphonse Mbouaki dans À votre avis.
Voilà, Alphonse Mbouaki qui nous a fait un bon résumé, hein, qui nous a dressé un plan de son pays, la République démocratique du Congo. Stéphanie Mbella, on revient aux États-Unis. Quel type d'éducation spécialisée pour les surdoués? Est-ce qu'il y a des écoles et des programmes spéciaux? Parce que là aussi, en fait, ce jeune-là, il ne peut pas s'intégrer dans une école ordinaire. Il a des capacités supérieures, il sait déjà beaucoup de choses, oui. Et du coup, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune-là?
Ces enfants aussi font partie de l'éducation spécialisée, mais contrairement à la loi pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage et les autres handicaps que j'ai mentionnés au début de cette conversation, les enfants surdoués ne sont pas nécessairement cherchés par les écoles. Donc, quand on administre un test normalisé et on découvre qu'un enfant est surdoué, là, on peut le guider dans un programme spécialisé dans l'école même, par le district scolaire. Mmh. Maintenant, il y a aussi, parmi les enfants surdoués, il y a une catégorie qu'on appelle les deux exceptions, c'est-à-dire un enfant peut être surdoué dans un domaine académique précis, mais avoir des troubles d'apprentissage dans un autre. Ça devient encore plus compliqué, et c'est là où l'enfant a besoin d'un suivi de thérapie, en fait, parce que c'est un peu difficile pour un enfant qui est peut-être à l'école primaire de comprendre qu'il peut, au niveau du cours élémentaire, de lire au niveau de la terminale, mais avoir des difficultés énormes, peut-être pour faire des calculs que l'on considérerait basiques. Donc, il y a aussi ce sous-groupe parmi les enfants surdoués, mais les écoles essaient toujours d'avoir des modules et des classes qui sont vraiment spéciales juste pour ces enfants, afin qu'ils puissent aussi s'épanouir dans le milieu académique.
Et quand ils arrivent au niveau supérieur, ça doit être plus simple pour eux, parce que là, ils peuvent vraiment choisir la filière dans laquelle ils sont doués, quoi.
Bien ouais. sûr. Ouais.
Alors, on va parler un petit peu d'éducation inclusive. Hein. Selon l'Institut Kenyan d'éducation spéciale, une éducation inclusive réussie passe principalement par l'acceptation, la compréhension et la prise en compte des différences et de la diversité des élèves, qui peuvent inclure les aspects physiques, cognitifs, académiques, sociaux et émotionnels. Alors, les parents, qu'en est-il de l'acceptation des difficultés de l'enfant? Comment sont-ils soutenus pour accompagner leur enfant en difficulté d'apprentissage? Et aussi, quelles relations ont-ils avec l'éducateur? On sait par exemple qu'en Afrique, on a eu beaucoup de témoignages des parents. Beaucoup de parents ne veulent pas reconnaître le handicap de leur enfant, ce qui pose problème.
Même ici, il y a des parents qui vraiment ont des difficultés à accepter que leurs enfants apprennent différemment, mais la loi leur met à leur disposition des ressources qui peuvent un peu réduire le stress que cela cause d'avoir un tel enfant. Et il y a une équipe qui est en place. L'équipe est là en commençant par les psychologues. Il y a une assistance sociale. Si l'enfant a besoin d'une infirmière, d'un orthophoniste, il y a ces ressources qui sont disponibles. Et en plus de cela, il y a le transport scolaire aussi qui est disponible pour les enfants, parce que certains de ces enfants, s'ils utilisent par exemple la chaise roulante, ils ont besoin d'arriver à l'école. Il y a les bus scolaires. Il y a un transport. Donc, il y a des ressources qui sont là. Et si les parents aussi, il y en a qui ont des enfants qui ont des handicaps sévères, ces enfants ne sont pas dans le dans des classes inclusives, mais sont dans des classes différentes, toujours dans le même lycée ou bien dans le même collège ou la même école primaire. Il y a toujours des para-éducateurs qui sont un peu comme des assistants de professeurs, des maîtresses et des maîtres pour aider. Et les parents ont des relations avec ces derniers. Donc, je veux dire par là qu'il y a toute une structure pour aider les parents. Même dans les communautés, il y a des ONG qui donnent du repos à des parents. Ouais. Oui, donc ils sont soutenus.
En plus, on a énormément de gens actifs dans les ONG aussi aux États-Unis. C'est un plus à tout cela. Et vous venez de citer, vous venez de dresser un très beau tableau finalement de tout ce qui est apporté aux citoyens américains. Et tout ça, c'est pris en charge généralement, n'est-ce pas?
Oui, tout est pris en charge par le contribuable.
Alors, ça nous ramène un petit peu aux résultats de l'éducation spécialisée. Qu'en est-il du taux d'abandon scolaire et de réussite, celles et ceux qui décrochent les diplômes, malgré leurs conditions? Vous-même, dans votre travail, vous avez eu des satisfactions. Et c'est une lutte quotidienne, on imagine, parce qu'en plus de ça, vous avez de belles réussites, n'est-ce pas?
Oui, c'est une lutte quotidienne parce qu'il faut le reconnaître, être enseignant n'est pas facile et être enseignant spécialisé est encore plus difficile. Et la société dans laquelle on navigue n'a pas encore ouvert toutes ses portes à ces enfants-là. Qu'à cela ne tient, il y a des jours qui sont vraiment très agréables. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui essayaient d'entrer dans le milieu du travail après l'obtention de l'équivalent du bac au lieu de continuer les études supérieures. Mais ce taux est plus élevé parce qu'en fait, la société les encourage à être actifs. Mais il y en a qui poursuivent des études supérieures. Il y a des universités qui sont là pour recruter ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage et autres. Et dans mon cas personnel, j'ai eu à travailler avec une jeune dame qui aujourd'hui a eu son master's et elle est assistante sociale. C'était très difficile, je me rappelle. Et elle me le rappelle aussi. Mais quand je la vois, je dis, les miracles existent et elle est très généreuse. Elle veut vraiment rendre à la société ce qu'elle a reçu de tout ce support qu'elle a eu tout en étant dans son au lycée. Donc oui, il y en a qui vont et ils fleurissent et c'est beau à voir le jour de leur remise de diplôme.
Très belles histoires. Et à contrario, des déceptions, des frustrations?
Oui, j'en ai aussi eu, malheureusement j'en ai eu beaucoup parce que quand les enfants qui sont en éducation spécialisée, ils approchent peut-être 17 et 18, la loi recommande qu'à partir de 14 ans, qu'on sache exactement quel plan ils ont après le bac. Est-ce qu'ils vont continuer dans le milieu de l'emploi ou bien ils vont aller dans les études supérieures? Qu'est-ce qu'ils veulent faire après le bac? Mais il y a des enfants qui se laissent... Ils sont découragés et certaines ne finissent pas, ils décrochent avant l'obtention du bac. Et il y a d'autres aussi, ils commencent vraiment le travail et ils abandonnent. Ou bien d'autres qui, malheureusement, commencent l'université et ils abandonnent. Donc, il y a ces histoires-là parallèles, mais il y a toujours un éclairci au bout de l'horizon.
Est-ce qu'ils sont un petit peu boostés dans le sens positif au niveau moral? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu complexés aussi, ces jeunes, justement, et qu'ils ont besoin de gagner en assurance? Est-ce que vous les aidez dans ce sens-là à leur dire que, justement, quelqu'un qui a des problèmes d'apprentissage et qui décroche un master, un doctorat ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui, à mon sens, est peut-être supérieur au surdoué parce qu'il fait beaucoup plus d'efforts et il y arrive comme les autres.
Ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que quand on travaillait, on essayait d'avoir une semaine au cours de laquelle on sensibilisait toute l'école sur les troubles d'apprentissage, les handicaps et on mettait devant les enfants ces célébrités, des personnes du monde politique qui ont des handicaps. Mais qui ont réussi.
Ouais, c'est très bon ça. Stéphanie Mbellin, pourriez-vous citer pour terminer deux ou trois qualités de l'éducateur ou enseignant spécialisé?
Numéro un, il faut aimer les enfants. Ouais. Parce qu'ils sont des enfants et au-delà de leur handicap, il y a des jours où c'est très difficile. Numéro deux, il faut être très, très organisé parce qu'en fait, on navigue avec beaucoup d'enfants. La charge de travail est très, très lourde. Et numéro trois, il faut avoir un hobby pour éviter le surmenage. Parce qu'après le travail, il faut vraiment se séparer de cet environnement pour essayer de jouir du milieu familial autant que faire se peut.
Mais vous n'avez pas cité la patience, la résilience. Enfin, vous n'avez pas cité toutes ces... Parce qu'il faut énormément de patience pour faire un travail comme celui-là.
Oui, moi je dis aimer les enfants. Parce que quand on les aime, la patience vraiment, elle devient naturelle. Ouais. Donc cet amour pour vraiment voir cet enfant éclore, on devient patient, on développe
ça. Quelle est la plus belle chose que vous avez appris avec ces enfants, avec ces jeunes?
Il ne faut jamais négliger quelqu'un. L'éducation, c'est un droit et tout le monde, tant que les ressources sont disponibles, toute personne peut vraiment y arriver.
Stéphanie Mbella, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Votre avis, je rappelle que vous êtes professeure spécialisée conseillère en orientation dans un collège communautaire du Maryland aux États-Unis. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Georges Léonard Sagnot. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Très bonne soirée et bon courage.
Merci Nathalie.